France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des intrigues policières ou des faits de société ? Un journal qui raconterait la face cachée de la société ou bien simplement qui alignerait une litanie de faits divers sans signification ? L'imagination a-t-elle sa part dans la rédaction des articles du journal ? Sauf que l'invention serait toujours en dessous de la réalité. Capter, tout simplement, le moment où le fait divers devient un mythe. S'approprier, sans doute un peu, de la célébrité occulte des victimes et des assassins. Le 1er février 1984, Nadine Vasseur, dans le Panorama, s'intéressait au journal Détective et aux faits divers.
Le slogan de l'époque Détective 1929, c'était « Détective vous amènera sur les traces du criminel, il chaussera ses chaussons, il vous fera vivre ses enquêtes, il vous expliquera pour quelle raison un homme arrive à tuer une autre personne. »
Patrice Delbourg, ancien rédacteur à Détective.
Moi, je pense que Détective n'est pas plus malsain que le plat méditerranéen. Ça offre de l'exotisme aux gens. À l'époque, ça devait être 3,50 francs. Et bon, moi, je pense que quand on a entre les mains un journal qui vous fait rêver, même de façon tout à fait perverse et même parfois avec des méthodes qui étaient assez discutables, ça fonctionne. Donc, et puis les gens qui disent ça, c'est certainement des gens qui n'ont jamais lu Détective. Moi, je trouve que c'était un journal qui répondait à une clientèle et qui faisait de son mieux. Dans le domaine poétique, Détective joue un rôle énorme. Détective et Paris Hollywood, dans les fantasmes des gens, c'est très important. Détective reste vraiment dans l'histoire du journalisme au cœur des gens comme, je sais pas, c'est une balise vraiment très importante, comme François, comme Mickey, comme Paris Hollywood. Je veux dire, ça correspond vraiment à une demande des gens. Et puis, bon, c'était tout un univers fantastique. Les locaux de la rue Lauriston, là, avec ces petits personnages vraiment qui étaient sortis tout droit d'une nouvelle de Marcel Aimé ou du théâtre de la Biche, c'était formidable. Je me souviens du petit personnage qui était préposé à l'aérographe, à Détective. C'est-à-dire qu'il retouchait les seins et le système pileux des dames qui étaient en première page, puisque Détective est un journal très prude, puisqu'il s'adresse à un lectorat très, très, très populaire et qu'il était dirigé par quelqu'un qui était un fasciste notoire, mais un homme quand même qui avait une moralité quand même très, très affirmée. Et bien, ce petit personnage qui avait 70 ans, je crois qu'il est mort depuis, son boulot était de retoucher donc les mamelons des dames, le petit poil qui dépassait du slip, et à recoller des corps qui n'appartenaient pas aux têtes. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les dames dévêtues que vous aviez à la une de Détective, le corps était un corps qui appartenait à une vamp, à une star quelconque, disons interchangeable, et la tête était une tête de morte qui avait été achetée à prix d'or par Détective auprès de différents policiers plus ou moins véreux qui avaient vendu des photomatons de gens morts. Donc il s'agissait de rafistoler la tête avec un autre corps, et c'était formidable. On l'appelait l'anti-Louis XVI, cet homme-là. Il s'appelait Gaston, je crois. Rien que pour ça, Détective, c'est formidable que c'est existé, non ?
Pierre et Catherine, rédacteur au Nouveau Détective.
On est le seul hebdomadaire à faire que du fait divers. Ça, c'est une spécificité.
C'est le journal des pauvres gens. C'est l'histoire des pauvres gens, lue par les pauvres gens. Si bien qu'il ne faut pas critiquer le journal, parce que sinon on critique les pauvres gens.
Écrit par des misérables. Non, c'est vrai, c'est le journal du quart monde. Mais je ne sais pas si c'est que ça, moi. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui nous lit. On n'a jamais eu de...
Enfin, pour les théoriciens de la nouvelle histoire, ils auront des documents, les seuls vrais documents de notre époque, puisqu'ils sauront ce qui se passe vraiment dans les campagnes françaises et les vraies passions qui habitent les habitants. Il n'y a jamais, jamais, jamais de part d'imagination. C'est toujours des faits réels, absolument réels. Mais comme la réalité n'est pas souvent la fiction, On a l'impression qu'on invente tellement ce qui se passe, c'est extraordinaire. Mais en réalité, c'est toujours réel.
Jean Vautrin. Scénariste et romancier. Auteur de Canicule et Patchwork aux éditions Mazarine.
Le fait divers, à 80%, c'est chez les pauvres. C'est quand même une chose frappante, ça. Et puis par ailleurs, moi je suis quelqu'un qui essaye de parler de son époque. Et à ce titre, évidemment, comme je viens d'audiovisuel, j'essaye de prendre des histoires qui sont des histoires de comportement. Évidemment, le fait divers, c'est ce qui répond le mieux à ce critère. Alors je suis quelqu'un qui tous les matins se lève et qui épluche les journaux. Alors j'ai des dossiers comme ça, j'ai des dossiers société, j'ai des dossiers sur la violence, sur l'armée, sur le sadisme, sur le néofascisme, des dossiers. Et petit à petit, ces dossiers prennent une consistance telle qu'ils envahissent ma tête et que j'ai envie de leur répondre par la fiction. Et puis il y a d'autres choses parfois qui arrivent et qui sont peut-être encore plus bizarres. C'est quand dans certains livres, on part de la fiction. Je prends un exemple dans un de mes romans qui s'appelle Groom. J'avais parlé d'un personnage qui s'appelait Monsieur Bing. Monsieur Bing était un homme qui avait vu la Terre entière et l'Amérique entre autres choses et qui était cancéreux. Et Monsieur Bing, une fois pour toutes, a décidé de vivre dans un univers qui serait le sien et qu'il a recréé de toutes sortes. Et cet univers, ça consiste principalement à ne pas rejeter ses ordures. Il habite donc un appartement complètement encombré par des produits de consommation, par ses bières, par ses fans de carottes, par tout son surgelé qu'il rejette, par les boîtes en carton, par le plastique, etc. Et finalement, vous savez très bien qu'on vient de vivre, par exemple, deux faits divers qui font penser à ça, l'un à Saint-Flour et l'autre du côté de Toulouse. Et là, bon, d'un seul coup, ça veut dire que l'invention est constamment en dessous de la réalité. On vit une société où l'exceptionnel est toujours possible. Et je trouve ça tout à fait rafraîchissant, quelque part, et noir. Je crois qu'on est tous capables, quelque part, d'être acculés aux faits divers. On est tous des gens capables d'être des grands schizophrènes et d'un seul coup de lâcher une bombe. Enfin, je pense que moi, si j'avais pas l'écriture, je serais quelque part quelqu'un qui aurait des secteurs de sa vie à cacher. Et puisqu'on parle de détective, par exemple, je crois que le journaliste de détective, c'est quelqu'un qui doit fournir un matériau scabreux, étonnant et détonnant à des gens qui, quelque part, ont besoin de cette espèce de contre-culture, de contre-faits divers pour ne pas, eux, peut-être aussi sombrer. Et moi, je crois qu'une littérature comme celle de détective, c'est leur proposer de l'exceptionnel qui, quelque part, les rassure parce qu'on a tous, au fond de nous-mêmes, une sorte d'exceptionnel qui est complètement barbare. On a une barbarie, hein, nous tous. Enfin.
Ce qui était étonnant à l'époque de détective, c'est que quand je rentrais chez moi après 4-5 heures d'écriture dans ces lieux sinistres, j'avais une soif d'écrire pour moi, de me remettre à ma table de travail qui était étonnante. Il y avait une forme de détective, était une espèce de catalyseur. C'est-à-dire que ce que l'on faisait était tellement anonyme, banalisé, codifié, sans intérêt, que ça vous vidangeait complètement les méninges et quand on rentrait chez soi, on avait vraiment envie de créer pour soi. Alors que maintenant, actuellement, aux nouvelles, par exemple, eh bien, quand je rentre chez moi, j'ai plus envie de rien faire. Je suis assez gré à détective d'avoir débloqué chez moi un certain nombre de choses, d'avoir décrispé un petit peu l'écriture et d'avoir peut-être augmenté et intensifié l'attention qu'on peut porter aux choses quotidiennes, aux choses banales, aux choses infra-quotidiennes, comme disait Pérec, des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir parce qu'on les a trop vues. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a, un côté, une magnificence du banal dans le détective qui est très chouette.
Patrick Hainaut, rédacteur en chef du Nouveau Détective.
Un radiologue de Boulogne tue sa femme et se suicide. Donc, au départ, l'information nous est donnée directement par la presse, par la radio ou par les dépêches Telex. Donc, en consultant ça, on s'aperçoit que c'est une histoire qui peut nous intéresser. Parce qu'un homme qui tue sa femme, un radiologue, puis après ce suicide, il y a quelque chose. Pour quelle raison un homme a-t-il tué sa femme? Donc on va envoyer une équipe enquêter directement sur place. Et après on écrira l'histoire.
Mais là, comme vous décrivez le métier de reporter sur le terrain, ça fait penser presque à une enquête policière.
C'est une enquête parallèle. C'est une enquête parallèle, à part que nous ne sommes pas des flics, je veux dire, attention.
Mais alors, c'est quoi les qualités que doit avoir un reporter? C'est des qualités d'enquêteur, des qualités psychologiques aussi, pour pouvoir approcher les gens?
Il faut qu'il soit premièrement psychologique. Deuxièmement, qu'il soit humain. Parce qu'il se trouve tout le temps confronté dans des situations plus ou moins dramatiques. Il faut qu'il soit un peu un petit roule-tabille.
Et vous, quand vous avez été reporter, qu'est-ce qui vous plaisait, en fait, dans ce travail?
C'est essayer surtout de démêler une histoire criminelle, de savoir qui était le meurtrier. Les histoires que j'avais le plus horreur, c'est l'histoire d'enfants. Bon. Quand un homme arrive à tuer une personne, quelle qu'elle soit, il y a quand même un acte suprême. Et essayer d'expliquer pour quelle raison on en arrive à devenir un jour ou l'autre criminel, je crois que c'est un cheminement extraordinaire à découvrir.
Jean-Paul Allard, reporter à détective.
Eh bien, un bon fait diversier, d'abord, doit avoir un carnet d'adresses. Plus on est vieux dans la profession, plus le carnet est fourni. Soit de policiers, soit de magistrats, soit d'avocats, même parfois de voyous, lorsque l'on travaille dans sur le fait divers crapuleux. Et on tape à toutes les portes, on tire toutes les sonnettes possibles et imaginables. Et c'est un travail vraiment d'enquête, la recherche de l'information.
Alors, quelle différence vous faites entre votre pratique et puis celle justement des enquêteurs de police? Vous les doublez un peu quand même, non?
Non, d'abord, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Ils peuvent mettre des témoins en garde à vue. Ils ont accès à des documents officiels. Bon, non, pas du tout. En général, nous arrivons très souvent derrière eux. On essaye de retrouver des adresses qu'ils ont eues par des moyens en général avouables. Ce qui nous intéresse, c'est le passé, comment un homme qui jusque-là à peu près normal est arrivé à une situation trouvé dans une situation criminelle. La préoccupation du policier est tout à fait différente. Lui, il cherche un coupable. Le flic, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir, par exemple, où l'arme a été cachée, où elle a été jetée. Parce que quand on trouve une arme, c'est une preuve supplémentaire. Bon, ben nous, on s'en fout. On cherche plutôt à savoir comment le type a eu envie d'avoir une arme, par exemple. Souvent, on arrive chez ces gens-là dans une situation... Ils vivent un drame, soit leur fille a été assassinée, soit leur fils est en prison pour avoir commis un crime, etc. Et ils veulent parler ou ils ne veulent pas parler, ils ont une prévention contre les journalistes ou ils ne l'ont pas. Et c'est l'aspect un petit peu émoustillant de ce métier. On ne sait pas ce qui se trouve derrière une porte, on ne sait pas comment on va être accueilli, on ne sait pas comment, si on va nous parler... On ne sait pas si on va nous donner des documents photographiques, puisque nous illustrons les articles avec des documents photographiques. Mmh. Détective est un journal qui est un journal de divertissement, qui n'a pas la prétention d'influer l'opinion publique comme peuvent le faire d'autres journaux à orientation politique. C'est un journal qui annonce la couleur de ce qu'il vend. Il n'y a aucune escroquerie intellectuelle dans Détective. Il n'y a aucune arrière-pensée chez les gens qui collaborent. Ils offrent un divertissement que l'on peut trouver de bon ou de mauvais goût, mais ils offrent un produit de consommation qui est parfaitement honnête. Les hommes, depuis qu'ils sont hommes, s'entretuent pour des femmes, pour de l'argent, pour la volonté de puissance, et c'est ces ressorts-là que nous exploitons, comme d'ailleurs tous les autres journaux, lorsqu'il y a un fait divers, la tuerie d'Auriol, le massacre du bar du téléphone, ont beaucoup fait pour le JD du Provençal et du Méridional. Ils ont fait aussi beaucoup pour le nôtre, c'est évident. Et le crime est notre pain quotidien, et nous le partageons d'ailleurs avec d'autres professions que la nôtre.
Les détectives avaient été interdits à l'affichage, parce qu'en France, il n'existe pas de censure, en théorie, à la suite d'une campagne de presse qui avait été menée par des éléments très disparates. On avait retrouvé au coude à coude dans cette attaque contre notre journal des groupuscules d'extrême droite, le Parti communiste, des groupuscules gauchistes aussi. Je me souviens que Rouge a mené une campagne incroyable, des gens bien pensants façon Nouvel Observateur. Enfin, il y avait une conjonction d'intérêts très disparates qui voulait, pour une raison qu'on ignore finalement, la disparition de ce journal. L'argument, c'était les affiches sont trop scandaleuses pour que nos enfants les voient. On sait aujourd'hui que ça tient pas en rapport de ce qui s'affiche quotidiennement sur les murs et dans les kiosques. On est des enfants de cœur.
Alors justement, vous me disiez par ailleurs que vous faisiez très attention à ne pas faire, par exemple, d'articles racistes.
Oui, tout à fait.
Quand je suis arrivé ici, le patron était André Belair, c'était un grand résistant, un type qui n'avait jamais eu rien à voir avec le racisme. Aujourd'hui, c'est son fils et il s'inscrit tout à fait dans cette tradition. Et ça, c'est une chose sur laquelle on est extrêmement vigilant et très, très rigide. Il arrive parfois, je vais citer cet exemple, alors on me dira que c'est du racisme à rebours, mais je m'en fous. Il arrive parfois qu'une belle affaire de fait divers, une belle affaire pour nous, enfin j'entends une affaire remarquable, éclate, mais que les protagonistes soient des gens appartenant à des ethnies minoritaires en France. Bon, ben, j'ai vu souvent de telles affaires mise au panier, uniquement parce que c'était susceptible de déclencher chez nos lecteurs, qu'on ne contrôle pas, des réflexes racistes.
Et c'est étrange, parce que de l'extérieur, on associe souvent détective à xénophobie, à extrême droite, enfin il y a quand même des images comme ça qui traînent
vrai.
Dans la tête.
C'est vrai, mais alors là c'est grotesque, enfin, je veux dire, c'est un jugement à l'emporte-pièce de gens qui ne connaissent pas. Je connais les gens avec qui je travaille, je sais qu'il n'y a personne n'appartient à l'extrême droite dans ce journal, c'est absurde.
Nos lecteurs, quand ils nous achètent, ne cherchent pas de la littérature. Je crois que quand on veut lire la littérature, on achète des livres. Ils veulent des faits. Et on leur donne des faits. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Madeleine est née en 1933, qu'elle s'est mariée, est-ce que sa robe était blanche, est-ce qu'elle n'était pas blanche. Et on fait visionner l'existence de gens qui, sans nous, seraient restés totalement dans l'anonymat. On décrit les maisons, on décrit les paysages, les chemins, les cafés, on décrit les lieux. On fait visionner le drame qui s'est passé. Et voilà.
Nous, on se contente, disons, de reproduire les faits et on essaie de les mettre dans un ordre logique, clair et cohérent. Et c'est vrai qu'on apporte aussi ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, disons, l'enrobage, le sirop. Il y a quand même un style maison qui est un style qu'on pourrait appeler du feature. Quoi. C'est entre le... C'est un style romanesque ou romancé, du moins, mais qui s'appuie sur la réalité et qui n'en sort pas. Quand on a, par exemple, un rapport de gendarmerie qui décrit les faits, nous, on sait retrouver les sentiments qui s'articulent autour de ces faits.
Oui, mais il y a quand même un style qui tire un peu au sensationnel.
Oui. Alors là, moi, j'ai une théorie là-dessus. À mon avis, il n'y a pas un style détective. Il y a eu des styles détectives, et c'est des styles que le fait divers endosse. C'est un journal qui existe depuis 1929. Il est évident qu'avant-guerre, le fait divers avait un style comme tout. Depuis les années 70, disons, il y a un style qui tient aussi à l'évolution de la société. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a ces accroches un peu tapageuses qui tournent beaucoup autour de la sexualité. Mais à mon avis, ça s'inscrit dans le déferlement des films porno, la libération des mœurs, ces choses-là. C'est un style qui évolue.
Justement, à propos du style, est-ce que vous vous sentez un peu héritier d'une certaine littérature de faits divers plus ancienne, non ?
Pas de faits divers, mais ils ont une littérature populaire, ça c'est vrai, oui. Oui, parce que les faits divers qu'on raconte à chaque fois, c'est une petite histoire complète, il y a le début, le développement, la fin, ça tient en 8 ou 9 feuillets. Si on pouvait se sentir l'héritier de quelque chose, ce serait du feuilleton populiste, du roman populaire du début du siècle, oui, ça c'est vrai. Si on parle de la période, disons, des années 5, l'immédiate après-guerre ou même l'entre-deux-guerres, disons, c'était une époque où les médias n'avaient pas du tout le rôle qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas de télévision, ils étaient complètement privés d'images. Et alors, détective, à ce moment-là, c'était le journal qui rapportait des choses qui paraissaient incroyables pour l'époque.
Si bien que ce qui intéresse les gens dans notre lecture, je crois, c'est qu'on met en scène des destins. On commence à la naissance, puis jusqu'à la mort. Et souvent, les histoires ont une morale, non pas une morale qu'on leur plaque, mais parce qu'elles apparaissent comme toute vie terminée, bouclée comme un destin. Et c'est cette philosophie qui ressort de ces existences qui intéresse. Et de ce point de vue-là, effectivement, la formule détective a été un peu modifiée. Autrefois, on insistait davantage sur l'aspect policier des choses. C'était plus un journal d'intrigues policières. Et on travaillait beaucoup à partir de simples rapports de police. Alors que ça raconte davantage maintenant des faits de société. Mais d'ailleurs, dans tous les magazines, la rubrique faits de société a de plus en plus de place. Donc ça doit correspondre aussi goût nouveau que les gens ont. On ne cherche pas forcément le sensationnel, si vous voulez. Ce sont les faits eux-mêmes qui sont sensationnels. Si détective n'en parlait pas, personne en France ne saurait que il y a des enfants qui, avant de mourir de faim, ont mangé tout le mastic qui était autour des vitres parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger et qu'on les a découverts simplement quand la boulangère allait réclamer l'argent que lui devait la mère. C'est des histoires comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre journal gêne, parce qu'on raconte la face cachée, le malheur. Et c'est jamais agréable à lire. Alors on dit qu'on se complaît là-dedans, mais est-ce qu'il faut dire la vérité ou est-ce qu'il faut la cacher ?
Le fait divers ne donne pas une image de la société. Le fait divers, bon, ce sont les sentiments que j'évoquais tout à l'heure, l'amour, la cupidité, la volonté de puissance, qui se trouvent dans l'esprit, dans le cœur de chaque homme. Le fait divers, c'est ces sentiments poussés à leur paroxysme qui donnent des êtres exceptionnels au sens étymologique du terme, c'est-à-dire heureusement que les amoureux ne s'entretuent pas tous à la première incartade, que les avares ou les gens avides d'argent ou de biens ne tuent pas leurs voisins, peut-être pas par moralité, peut-être par la crainte du gendarme, et heureusement que la volonté de puissance n'aboutit pas perpétuellement à des massacres généralisés, parce que ça serait invivable. On a vu un jour arriver dans les salles de rédaction ce terme « le fait de société ». Le fait divers n'est pas un fait de société, le fait divers est un fait éternel. L'histoire de l'homme commence par un fait divers, l'assassinat d'un frère cadet par son aîné, et puis c'est tout. Et c'est ainsi depuis que le monde est monde. Le fait divers, il n'y a rien de signifiant dans un fait divers. C'est le fruit de la violence qui fait partie de l'histoire des hommes et qui se retrouve chez tous les hommes. Simplement, elle s'exprime de façon exceptionnelle dans certains cas. C'est ça, le fait divers.
Il est prouvé qu'actuellement, en période de chômage, le Nord, l'Est, le drame passionnel diminue pour donner acte au drame crapuleux. Pour quelle raison ? Parce qu'en période de chômage, les affaires de cœur passent au deuxième rang. En période où, en pleine économie, on tue plus facilement au point de vue passionnel que maintenant. Au début, on s'empoisonnait. Il y avait énormément d'empoisonneuses. Maintenant, on empoisonne moins. Maintenant, on va au 22 long rifle. Donc, il y a une évolution des mœurs. Et vous ne pouvez pas savoir, quand vous consultez toute la collection, vous apercevez de tout un reflet de la société, problème de chômage. En ce moment, on se suicide avec toute la famille parce qu'on est touché par le chômage. Chose qui n'existait pas il y a 10 ans.
Détective a été créé en 1929, année de crise, année du crack, et c'est pas par hasard, parce que bon, Détective est un journal de rupture, de crise, de chaos. C'est un journal qui économiquement répond effectivement à des données économiques qui sont un petit peu brinque-ballantes. Pour la personne qui l'achète, plus qu'il l'achète, qu'il y est abonné, car c'est un journal qui, je crois, aux 2/3 se vend par abonnement, et au 9/10 dans le nord de la France. Et au 7/10 dans 3 départements. Pas-de-Calais, Nord et je ne sais pas, Meurthe-et-Moselle par exemple. Là, j'invente un petit peu. Eh bien, les gens qui le reçoivent, ils le reçoivent quasiment clandestinement, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent sous pli cacheté. S'ils l'achètent, ils l'achètent entre des journaux de télévision ou France Soir, parce que c'est un journal sur lequel on culpabilise un peu. C'est quand même un journal qui reste clandestin, bien qu'il ait maintenant 40 ans, 45 ans, enfin, il est adulte. C'est un journal qui a
55 ans.
Il a 55 ans.
Ben oui.
Mais donc 29, il a été créé en même temps que Mickey, un peu après la mort de Proust. Et finalement, on peut dire qu'il y a deux grandes écritures qui ont marqué ce siècle, c'est Proust et Détective. Proust écrivant en méandre, et puis Détective qui coule tout droit. Il y a un style rhubarbe et un style strict. Il me semble qu'actuellement, beaucoup de romanciers gagneraient à relire Détective, parce que là-dedans, il y a quand même de la trouvaille. Après une longue période de chômage, Je suis ravi de rencontrer Détective, qui a un double mérite. D'abord, à l'époque, c'était l'un des journaux qui payait le mieux, au feuillet. Et ensuite, pour moi, Détective, ça représentait quand même une forme de journalisme bouillante et quotidienne, liée aux images de Kessel, de Carco. Pour moi, ça, il y avait une mythologie détective. C'était d'abord la possibilité de pouvoir se colter avec un type d'écriture simple et efficace, dont les règles étaient d'ailleurs édictées par M. Belair, aujourd'hui disparu, qui était le rédacteur en chef du Détective, à savoir que le lectorat de Détective était considéré comme une personne généralement du sexe féminin, vivant plutôt aux environs de Lens et ayant environ 30 à 35 secondes à consacrer par jour à la lecture de Détective. Par conséquent, il fallait écrire des paragraphes qui ne dépassaient pas 20 à 25 lignes et dans lesquelles on retrouvait le triangle magique, un peu de sexe, un petit peu de violence, le tout saupoudré de bons sentiments moraux.
Mais alors justement, enfin, quand vous dites ça, c'est un peu surprenant quand on sait qu'il y a Macorlan, Marcel Aimé, Cocteau qui sont passés par là. Enfin, c'est quand même une écriture très très différente et là, enfin, très très simplifiée, non ?
Oui, mais ils avaient besoin de ce squelette, ils avaient besoin de cette espèce de trame un petit peu rassurante qui est le récit populiste pour pouvoir greffer dessus leur fantasme, leur propre personnalité. Détective, ça fonctionnait à peu près comme ça. Il y avait un crime sordide qui était commis à Bar-le-Duc. On envoyait un envoyé spécial, un pro qui arrivait sur le cadavre encore fumant, généralement avec un chèque de détective, pour pouvoir accéder immédiatement auprès de la veuve ou des proches et pour connaître tous les détails les plus avant, bien entendu, la police et les services juridiques, pour savoir un petit peu ce qui s'était passé, les trucs les plus malsains, comme ça. Ensuite, il rentrait dans sa chambre d'hôtel en vitesse et donc de l'hôtel du Terminus, il dictait au magnétophone l'histoire qu'il racontait avec son langage à lui, assis sur le bord de son lit face au bidet, comme ça, et il envoyait la bande magnétique à Détective par porteur express. Et ensuite, nous autres, on avait les bandes comme ça, sur ces gros... Ça s'appelle comment ? C'est ce que vous avez là, d'ailleurs ? C'est un
nagra.
Un nagra, merci. Avec les gros nagras, on se chaussait de petites oreillettes et comme des gros homards, on décryptait donc les bandes pendant 2-3 heures. Et ensuite, on tricotait entre ces mailles très serrées une petite histoire où on évitait évidemment des mots ennuyeux, par exemple... faire l'amour pose problème dans le langage du détective. Ça pose problème. Bon, alors on honore, mais on ne baisse pas. Bon, c'est très bon. Au niveau du sexe, il y a des problèmes. Par exemple, les attributs masculins, c'était terrible. Il y a eu des luttes de tranchées dans la rédaction de détective pour arriver à faire passer des mots comme mandrin, par exemple. Je me souviens qu'il y a eu un phénomène sur mandrin. On marchait vraiment, on débroussaillait à la machette, comme ça, mot par mot. Et chaque mot, à la limite, était porté à l'appréciation du directeur en chef. Bon, et quelquefois, on a faisait avancer un peu liberté. On a réussi à faire passer le mot slip cette semaine. C'était formidable.
Eva Nanskia, romancière.
Moi, avec ma tendance au second degré, j'avais commencé dans un papier à parler d'une pauvre femme abandonnée, je ne sais pas quoi. J'avais mis la pauvre Paulette, avait de la buée sur ses lunettes, etc. Et pour me faire rire un peu, pour me donner du courage, parce que c'est quand même un peu tristos.
Mais alors, je ne sais pas, vous parliez de contraintes de vocabulaire, c'est-à-dire, c'est quoi ?
Mais d'abord, le public de détective, c'est quand même pas des intellos. Donc, il faut pas employer des mots remarqués. Moi, j'en connais pas des mots compliqués. C'est pas ça. Mais il y a des phrases clés, des phrases choc qui font tilt. La première rencontre, c'est un peu eau de rose. Après la violence, tout ça. Enfin, il y a des clichés comme ça très particuliers à ce canard. Alors à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 ans, au moment où j'ai fait ce bref passage, c'était encore Belair qui était à la tête du journal. Et c'était un vieux monsieur, un peu craint de ses employés, mais en même temps, oui. Et quand je lui ai envoyé les Raoul, il m'a envoyé une petite carte de félicitations, mais il a dit à ma copine, sur un ton vraiment... il a dit « cette petite n'a pas d'âme ». Ça m'a fait rire.
Oui, mais de toute façon, beaucoup de gens m'ont dit qu'il y avait un côté très moral dans le journal.
Je suis choquée par mes histoires pour moi, c'était Les Raoul, c'est mon premier livre, c'est autobiographique. Et je raconte l'histoire d'une. Enfin, l'itinéraire d'une nana de notre époque qui vit, entre parenthèses, sa libération sexuelle. Enfin, ça faisait partie de l'histoire. Et lui, je crois que ça l'a beaucoup choqué.
C'était un journal qui avait une éthique de fer. Les petites annonces, c'était des petites annonces uniquement destinées à des rencontres sérieuses, non pas des rencontres de libertinage. C'était pour la vie, non pas pour une nuit.
Le patron, ce qu'on appelait le patron ou le commandant, c'était un seigneur, c'était un séducteur, c'était un charmeur.
C'était un ancien parachutiste, c'est ça ?
C'était un ancien commando de France, il a fait une très belle guerre de 40-45, c'est un homme très courageux. À 60 ans, il faisait le coup de poing avec des cégétistes.
Il vient de très cultivé aussi, non ?
Il était très fin, très cultivé, il avait lu Saint Thomas, lui.
Patrick Rumeau, romancier. Auteur du Valet de peur, une enquête sociologique sur l'affaire Barbeau, chez Jean-Jacques Pauvert.
Je cherchais des éléments sur la peur. Et en 75 ou 76, comme j'ai un ami qui sait que j'adore la pluie, ou sait que les mycologues adorent la pluie, cet ami m'a téléphoné et m'a dit « Écoute, va acheter Détective. » Vous savez que Détective est un immonde canard, un journal s'amusant à rameuter les pulsions des gens et à faire surgir en eux, dans le fond, ce qu'il y a de plus bas, de plus moche, de plus vulgaire, de plus con. J'ai donc été surpris de ce coup de téléphone, mais j'ai quand même acheté Détective, où j'ai lu ceci, le tueur de l'ombre frappe pour la 5e fois. Ce qui m'a frappé sur le terrain, comme disent les ethnologues, c'est que, dans le fond, cette affaire, c'est une affaire de meurtre, et de meurtre tout à fait abominable. Or, sur les quelques 500 ou 600 témoignages que j'ai recueillis en 5 ou 6 ans, il n'y en a pas un qui condamne le tueur. On pouvait penser que le tueur de Nogent était un agresseur type. Or, la ville ne fait pas du tueur un agresseur, mais elle en fait un héros. C'est ça qui est fabuleux. Alors, il faut se demander pourquoi. Il faut se souvenir que ce qui est le cœur de Nogent, c'est le rail, c'est la cité des cheminots. Et dans le fond, pour les Nogentais, eh bien, le tueur, issu d'une famille de cheminots, dans la rumeur, dans les faits aussi, est en quelque sorte celui qui vient se venger, qui vient venger la vieille ville qui se meurt en tuant les étrangers, les étrangères de la ZUP, les étrangères qui ont envahi, contaminé, bouleversé le noyau, le vieil espace Nogentais. Il faudrait se demander si le fait divers, ou un certain nombre de faits divers, ne passionnent pas les gens, justement, parce qu'ils donnent naissance à des mythes. Et il faudrait essayer de trouver quels sont les éléments qui font qu'un fait divers devient un mythe. Je sais que, pour celui de Nogent, l'élément primordial, c'est la répétition. C'est parce que ça a duré longtemps. La répétition, c'est la source de la magie du tueur.
Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un fait divers, c'était un type qu'on appelait le pyromane des méharis. C'est un type qui fichait le feu à toutes les méharis qu'il trouvait dans le 13e, entre autres choses. Mais en plus de ça, il y a eu en France un certain nombre de cas similaires. Autrement dit, il y a des gens qui copient l'actualité, qui copient les faits divers. J'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y avait vraiment un grand criminel ou quelqu'un qui arrivait à capter l'attention des journalistes, il y avait en général un copieur quelque part. C'est la preuve en tout cas qu'il y a toute une marge, toute une fraction de gens qui est complètement à l'écoute de ce monde-là. Je crois qu'il y a quelque part sous la ville, là encore, alors là c'est les thèmes vraiment du roman noir, puisque les thèmes du roman noir c'est essentiellement la ville et la violence. Je crois qu'il y a quelque part à l'écoute du monde des gens suffisamment malheureux pour essayer de capter une espèce de célébrité occulte comme ça, qui existe et qui, moi, me fascine complètement. Enfin, finalement, ça recoupe complètement le mythe de Fantômas. Enfin, retrouver le mal, être celui par qui le mal arrive, je pense que c'est tout à fait aussi fascinant que d'être celui qui se marie en blanc ou celui qui épouse la princesse. Enfin, je pense qu'être un prince de la nuit, c'est quelque chose de tout à fait captivant.
Le journaliste de faits divers, il traite 50 affaires qui se ressemblent presque toutes, et puis de temps en temps, il y en a une qui sort par la personnalité des protagonistes, qui est exceptionnelle. Par exemple, l'affaire du vol à main armée de Protection Sud à Marseille, qui avait pour héros, entre guillemets, Lionel Leroy, et était amusante et passionnante. Voilà un type qui est entré comme convoyeur de fonds, puis qui désarme ses camarades de travail, qui part avec une somme considérable qui n'a jamais été retrouvée. Il avait un carnet d'adresses, par exemple, il avait pris des noms au hasard dans le bottin, et il avait laissé bien en évidence son carnet d'adresses sur sa table de nuit. Quand les policiers sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est de bondir sur le carnet d'adresses, et puis ils se sont amusés à interpeller tous les types qui étaient dessus, et il les a promenés et baladés pendant des jours et des jours. Il a orienté les recherches dans des directions les plus farfelues. Oui, il y a des affaires dont on se souvient toute sa vie. Et puis même quelquefois des faits divers qui sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire, d'un drame passionnel. Et puis on s'aperçoit, on rencontre un témoin, un mari trompé par exemple. Et puis on tombe sur un type qui a une classe, qui est intelligent, qui est fin, qui n'a pas du tout l'allure du cocu à la Sacha Guitry et qui tranche sur les interlocuteurs habituels que l'on trouve.
Je crois qu'on est condamné à avoir une certaine tendresse pour ce qui est exceptionnel. Moi, j'ai peur d'une seule chose, finalement, c'est de la foule. Alors, les individus sont pour moi des gens qui ont toujours quelque chose de positif et d'exceptionnel. Le fait de tuer ou le fait d'avoir un comportement brutal, barbare, procède quelque part d'un manque. Je pense que le fait divers, c'est toujours la relation d'un manque.
C'est un journal de concierge, mais bon, la presse a sensation. De toute façon, il y a pire. Hein.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pervers dans le fait que ce soit justement des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, qui écrivent pour les autres et qui donc, d'une certaine façon, enfin, exploitent leur frustration, non ?
Pervers, je veux dire, la presse, c'est pervers de toute façon. Hein. Qu'on fasse n'importe quoi dans la presse, on n'est pas Blanche-Neige. Hein. Actuel, pour moi, c'est détective en couleur, mais avec des moyens, c'est-à-dire avec des belles photos, avec du papier glacé, etc., et avec une prétention culturo-intello que détective n'a pas.
Michel-Antoine Burnier, rédacteur en chef d'Actuel.
Détective est une chose qui nous amuse. Incontestablement, c'est un journal qui nous amuse, et il y a probablement une capacité d'enquête chez les gens de détectives qui enquêtent plus qu'on ne pense, et une capacité de récit qui est assez amusante. Alors, ce qui séduit dans détective, c'est-à-dire l'imagerie, c'est-à-dire le côté très proche, le côté un peu populaire, moi je suis assez d'accord, le côté roman du 19e siècle, le côté Fantômas de détective, il est peut-être très abattardi, mais il correspond à un besoin et à un genre, quand je dis littéraire, j'exagère, mais à un genre de récit, et essayer de le faire d'une autre façon en l'appliquant à des sujets qui sont pas trop scabreux, oui, ça m'amuse. C'est-à-dire que le vieux dessinateur de détective qui s'appelle Angelo Di Marco, nous l'avons repris et nous lui avons fait dessiner des scènes dans Actuel. Quand il a dessiné la vie de Jacques Lacan, les différentes séquences de la vie de Jacques Lacan, qui sont une succession de faits divers extraordinaires, car Jacques Lacan était un fabricant de faits divers, eh ben, j'étais content que ce soit Di Marco qui le fasse.
Ce qui est intéressant c'est de regarder par le trou de la serrure. Naturellement, c'est là que l'on voit, on voit les choses comme si on y était. Vous avez en même temps la scène que vous voulez voir, vous n'y êtes pas et vous transgressez un interdit. Que voulez-vous de mieux ?
On n'est pas très porté sur le sang et sur le sensationnel qui épate comme ça le petit bourgeois. Enfin, moi, ça me répugne plutôt et donc ça, je ne le ferai pas. Le côté, il donne sa femme en pâture à ses deux amants, enfin tout ça, ça m'ennuie profondément. Ce que je crois, c'est que le fait divers sanglant pour le sang ou pour le scandale ou pour le sexe est relativement méprisable. C'est-à-dire le viol de la vie privée simplement pour satisfaire des instincts de voyeur, ne m'intéresse pas. Et moi, ce qui m'apparaît noble, c'est le récit de la vie des gens, sans privilégier plus le sang, le crime et le sexe qu'ils ne le sont dans la vie. Qu'est-ce que c'est que la grande presse, comme elle a existé à une époque, ce qu'a été le grand François jusque dans les années 60, ce qu'a été le petit Parisien de l'avant-guerre, etc. C'était une presse qui rendait compte de l'ensemble de la vie et qui privilégiait le fait divers, mais dans un contexte qui n'était pas que ça. C'est-à-dire que c'était des journaux qui rendaient compte de la vie des gens, et si vous les relisez maintenant avec 20 ans de recul ou 50 ans de recul, vous vous marrez. Parce que vous avez vraiment l'impression de retrouver la vie des gens à cette époque. Alors que si vous lisez Détective avec du recul, ou si on imagine dans 20 ans retrouver un numéro d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on tienne bien la réalité de la vie quotidienne des gens, de leurs émotions, du décor et de leurs passions.
Ce qui intéresse nos lecteurs, c'est une histoire, quelle qu'elle soit. Que ce soit passionnelle, question d'intérêt, crime d'enfant, mais il faut toujours une histoire.
Et comment vous êtes venu à ça, vous, à détective ?
J'étais un amateur de policier.
Pierre, vous avez une formation d'historien. Alors, comment vous êtes venu à travailler ici ?
Ben, oui, vraiment, enfin, c'est le hasard, quoi. Quand on a un diplôme de lettres et qu'on n'a pas envie d'être enseignant, alors il faut travailler. Et puis, on m'a proposé un jour de faire une pige, de faire un papier à détective. Je l'ai fait, ça a marché, puis je me suis retrouvé ici. Comme je m'y plais bien, ça fait 5 ans que j'y suis, quoi. Voilà.
Il est connu, enfin, qu'il y a beaucoup, entre guillemets, d'intellectuels de gauche, enfin, qui sont passés par ici ou qui y sont encore.
Oui, c'est vrai, c'est indéniable. D'ailleurs, quand vous dites intellectuel de gauche, avec tout ce que ça sous-entend de parfois être pénible, il me semble que ça définit assez bien le profil du rewriter de détective, oui, c'est ça. C'est un intellectuel de gauche.
Et vous n'avez jamais ressenti justement de divorce ou de contradiction entre justement la pratique que vous aviez ici et peut-être vos idées par ailleurs ou justement ou votre environnement par ailleurs, qui est un environnement d'intellectuel, non ?
Jamais, c'est un journal très, très libéral. C'est un avantage.
Oui, c'est vrai. On me dira que rien n'est apolitique et que la façon dont on traite le fait divers, c'est aussi politique. Toutes ces choses qu'on disait en 68, c'est peut-être vrai. Mais c'est vrai que comme le politique, disons, évident est évacué du journal, moi, j'ai jamais eu à écrire quelque chose qui allait contre ma conscience. Jamais. De toute façon, bon, je pense que c'est un truc que j'aurais pas fait, que personne n'aurait fait ici. Il est vrai que parfois, j'ai écrit des trucs qui me faisaient rigoler. Parfois, j'ai été insincère en outrant un peu les sentiments d'un personnage, ou alors justement en exprimant les sentiments d'un personnage, des sentiments que moi je n'aurais jamais pu ressentir. Bon, là, il y a peut-être un travestissement, je ne sais pas. Mais bon, mais ça n'a rien de dur pour la conscience professionnelle du journaliste. Au contraire, c'est presque de la comédie. C'est marrant parfois de changer de plume, de changer de personnage, d'essayer de faire des choses différentes.
Ma copine Eliane Martin, qui travaille à Détective depuis 10 ans, bon, ça a modifié quand même un peu son comportement à force d'écrire des horreurs, des histoires de sadiques, etc. Elle voit des sadiques partout. C'est-à-dire qu'on fait des courses ensemble en plein jour, elle rase les murs. Une fois, je me souviens, on a dépassé... Non, il y a un petit vieux qui nous a dépassé, mais vraiment un vieux, 75 ans, avec une canne. Et elle m'a fait faire un saut de 2 mètres. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend? Et elle me dit, c'est peut-être le perceur de seins. Il avait un pic dans sa canne et il perçait le sein des nanas avec sa canne. Mais ça peut être un vieux. Elle est devenue complète. Elle s'enferme chez elle. Si tu dis pas 3 fois ton nom, elle t'ouvre pas s'il n'y a pas son mari. C'est la psychose de détective.
C'était Détective et faits divers, une émission de Nadine Vasseur diffusée dans le Panorama le 1er février 1984.